c'est vrai qu'ils sont plaisants. Tous ces petits villages, tous ces bourgs, ces hameaux, ces lieux-dits, ces cités, avec leurs châteaux forts, leurs églises, leurs plages, ils n'ont qu'un seul point faible, et c'est d'être habité. Et c'est d'être habité par des gens qui regardent le reste avec mépris du haut de leur rempart. La race des chauvins, des porteurs de cocardes, les imbéciles heureux qui sont nés quelque part. Les imbéciles heureux qui sont nés quelque part. Maudits soient ces enfants de leur mère patrie, empalés une fois pour toutes sur leur clocher qui vous montre leur tour, leur musée, leur mairie, vous font voir du pays natal jusqu'à Loucher, qu'ils sortent de Paris ou de Rome ou de Sète ou du diable Vauvert ou bien de Zanzibar. Ou même de mon cul, ils s'en flattent mazette. Les imbéciles heureux qui sont nés quelque part. Les imbéciles heureux qui sont nés quelque part. Le sable dans lequel douillettent leurs autruches enfouissent la tête. On trouve pas plus fin quant à l'air qu'ils emploient pour gonfler leurs baudruches, leurs bulles de savon. C'est du souffle divin. Et petit à petit, les voilà qui se montent le cou jusqu'à penser que le crottin fait part. Leurs chevaux, même en bois, rend jaloux tout le monde. Les imbéciles heureux qui sont nés quelque part. Les imbéciles heureux qui sont nés quelque part. C'est pas un lieu commun, celui de leur naissance. Ils plaignent de tout cœur les pauvres malchanceux, les petits maladroits qui n'eurent pas la présence, la présence d'esprit, de voir le jour chez eux. Quand sonne le tocsin sur leur bonheur précaire, contre les étrangers tous plus ou moins barbares, ils sortent de leur trou pour mourir à la guerre. Les imbéciles heureux qui sont nés quelque part. Les imbéciles heureux qui sont nés quelque part. Mon Dieu, qu'il ferait bon sur la terre des hommes si l'on y rencontrait cette race incongrue, cette race importune, et qui partout foisonne, la race des gens du terroir, des gens du cru. Que la vie se révèle en toutes circonstances, si vous n'aviez tiré du néant ces jobards. Preuve peut-être bien de votre inexistence, les imbéciles heureux qui sont nés quelque part. Les imbéciles heureux qui sont nés quelque part.
Je suis venu au monde dans un siècle fantasque où on laissait les gosses faire du vélo sans casque, se construire des cabanes, percher dans les branchages et boire de l'eau à même le tuyau d'arrosage. S'il est toujours risqué d'aborder l'existence, naître à cette époque-là, s'affriser l'inconscience, logé dans des maisons, isolé à l'amiante, de la peinture au plomb sur les murs de nos chambres. Je tiens à m'excuser d'être toujours vivant, et si je le suis resté, ce n'est qu'un accident. J'ai rien à me reprocher, je suis un bon vivant, un joyeux rescapé qui comprend pas comment. Pas de console de jeu, en s'étant reculé, on grimpait sur les murs, on se battait pour de vrai. C'était le Moyen-Âge, un monde impitoyable, de monde abandonné, sans téléphone portable. Le long de la nationale, on faisait des vallées, des machines infernales, des bolides bricolés, avec des plonges pourries, pleines d'échardés de clous. Et même le tétanos n'a pas voulu de nous. Je tiens à m'excuser d'être toujours vivant. Si je le suis resté, ce n'est qu'un accident. Je ferai un procès plus tard à mes parents. Faut pas proliférer sans réfléchir avant. Tout ça.
La musique.
Caravanana maximum.
Sa gueule, sa gueule.
Je me fous du
La maladie fait partie intégrante de nos vies. Quand tu ne diras plus ta vue.
Vive le soleil.
Vive les oreilles.
Vive.
We'll be right back.
Radio Libertaire, la radio de la Fédération Anarchiste 89.4 en région parisienne et partout ailleurs dans le monde, radio-libertaire.net. Vous êtes à l'écoute de l'émission Les Oreilles Libres, émission consacrée aux musiques singulières, autre forme de création curieuse. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Gwen Rouget. Bonjour Gwen.
Salut.
Et alors, peut-être tu peux nous dire ce qu'on a écouté pour commencer l'émission.
Alors, on vient d'écouter Flagellatio de Raphaël Languilla, qui est une pièce qu'il a écrite, je crois, en 2018.
Ouais.
Voilà, c'est un solo, c'est un rapport physique avec l'instrument, puisqu'on ne s'arrête jamais de jouer, en fait. C'est une espèce de grande résonance qui dure une quinzaine de minutes.
Ouais, d'accord. Donc, c'est de la musique contemporaine. Ma question, ma première question, elle ne va étonner personne, et pas toi. Quel type d'apprentissage de la musique as-tu reçu ? Tu as fait le conservatoire, je suppose ?
Oui, tout à fait. Ouais. En fait, ça me fait penser d'ailleurs à ça, cette pièce de Flagellatio, parce que je l'ai jouée à Saint-Méry, je pense que ça devait être en 2018, ouais, les derniers concerts à Saint-Méry, avec Sans Initiative, dont on parlera tout à l'heure. Mmh. Et en fait, à l'époque, j'ai vécu un truc assez fort dans ce concert, parce que je venais de perdre un ami qui s'appelait Alain Biotto. Et grâce à qui en fait je fais cette musique, puisque quand j'étais toute petite, j'avais 8 ans et que j'étais à Rennes en Bretagne, il animait des ateliers extraordinaires de musique, de création, d'improvisation, d'écriture de partitions graphiques au sol, etc. Et c'est grâce à lui finalement que j'ai commencé à sentir cette attirance pour la musique de création. Et voilà. Et donc pendant ce concert, j'ai une espèce de je l'ai interprété vraiment comme une espèce de résonance qui pouvait c'était assez spirituel, assez communicatif avec lui par rapport à son décès proche. Et donc ça c'était très fort. Et grâce à Alain, donc quand j'avais 8 ans, j'ai commencé par ça, on peut dire, vraiment véritablement. Ça a été ma première rencontre avec la musique, cette musique d'invention. Et puis après j'ai commencé le conservatoire, ouais.
Ah d'accord, c'est particulier ça.
C'est pour ça que je t'en parle du coup, j'en parle.
Ouais, ouais.
C'est assez fort, parce qu'en fait du coup je suis rentrée au conservatoire de Rennes, et là, ça a duré les études du conservatoire, je sais pas, j'ai dû continuer à étudier au conservatoire jusqu'à mes 30 ans, 28-30 ans.
Ouais.
Et du coup, il y a eu des différentes péripéties, on va dire, mais disons qu'au moins jusqu'à mes 25 ans, au moins j'ai eu cette formation au conservatoire de Rennes, par exemple, qui m'a posé problème.
Eh ben, c'est ça, alors. Donc, du coup, parce que toi, t'as fait l'inverse, en fait. T'as commencé par la musique de création.
Bah voilà, en fait.
Après, tu t'es tapé Scarlatti. Et...
Non, mais en fait, c'est pour ça que j'en parle, quoi. Parce que je pense qu'il y a, c'est resté dans un petit coin de ma tête, quand même, comme un endroit de liberté possible. Ouais. Comme une. Enfin, j'étais heureuse, quoi. J'ai ce souvenir. Et donc, ça, c'est vraiment marqué. C'était. Ouais, voilà. Après, j'ai appris le piano au conservatoire de Rennes. Qui était un conservatoire, bon, ça a beaucoup beaucoup changé, je pense, mais à l'époque c'était quand même il y avait pas de département de jazz, quoi. On en était là. Donc on était quand même dans quelque chose de très le rapport au public était extrême, c'était super scolaire, quoi. En fait, c'est tout le paradoxe de ce conservatoire qui finalement historiquement c'est quand même un lieu pour former les musiciens de la cour à la base, hein. Donc on est sur vraiment de la quelque chose de très technique. Et cette espèce de d'ambivalence sur est-ce que ça forme des créateurs, quoi, hein,
alors,
clairement.
C'est quoi ta réponse ?
Bah c'est non. Ouais. En fait, en tout cas là, moi, il a fallu une dizaine d'années pour, je sais pas, une dizaine. Je pense que ça peut être plus que ça. Même oui, vraiment plus de désapprendre, la base, quoi. La base, c'est d'être soi et de pas essayer de suivre une image, de rentrer dans des cases. C'est vraiment l'opposé de l'aspect d'être créateur, créatrice. Et du coup, waouh, quoi.
Bah, ouais, je suis content que tu en parles comme ça parce que c'est pas si fréquent. Et parfois, les musiciens et les musiciennes nous disent « Ouais, mais quand même, j'ai appris de la technique, ça m'a pas servi à rien. » Ils ont un peu d'indulgence par rapport à cette formation classique.
Oui, non, mais bien sûr, on peut toujours dire ça. Alors après, c'est un peu peser le pour et le contre, mettre sur la balance les choses. Ça t'apporte forcément des choses. Ça t'apporte la persévérance. Oui. Bon, bien. Ça t'apporte effectivement une technicité, mais la technicité, tu peux l'attraper, tu peux la voir autrement. En fait, il me semble pas que. Non, ça fait vraiment des ravages. En fait, si tu rentres pas dans un certain moule, tu vas finir par penser que c'est pas pour toi, que tu n'es pas fait pour ça. Et puis, moi, j'ai vu pas mal de copains s'arrêter, quoi, sur le bord du... Alors qu'en fait, c'était des gens extraordinaires et créatifs et tout. Et du coup, qu'est-ce qui fait que t'arrives à tenir et qu'au bout du compte, des années après, t'en es là ? Pour vraiment beaucoup de raisons. Mais franchement, c'est quand même un parcours du combattant, de la combattante.
Ouais, ouais.
Ouais, vraiment. Pour se retrouver soi, en fait. Parce qu'on te dit, pianiste, il faut que tu saches jouer ça, 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 ça. Il faut que tu sois comme ça, il faut que tu fasses ça, etc. Avec aussi cette histoire des enregistrements, l'apparition de l'enregistrement qui va vraiment créer des références. En fait, on a dans l'oreille des références de studio, souvent aussi, de vraiment la version de telle œuvre. Et qui fait qu'après, en sur scène, tu es sur la réserve, quoi. Tu peux pas être... aussi, il y a cet aspect-là. Tu peux pas être... Il y a une espèce de... Tu contiens, quoi.
Ouais, ouais.
En tout cas, pour moi, ça a été... c'est pas là, en tout cas, où je me suis trouvée.
Ouais, ouais. Alors, moi, j'aimerais bien que tu répondes à ta propre question. Qu'est-ce qui fait que t'as tenu le coup? Tu vois, moi, je compare ça à l'école. Tu vois,
ouais.
En ce moment, ils nous font tout un truc avec l'école. OK, bon, moi, je pourrais dire un peu comme ce que tu viens de dire. Hein. L'école, t'apprends quoi? T'apprends à mentir, t'apprends à tricher, à obéir. Enfin, donc... effectivement, ça, on peut dire ça. Ça peut être utile parfois dans la vie. Mais je suis pas convaincu, mais bon, pourquoi pas. Mais en dehors de ça, bref, quoi. Et comment t'as tenu? Comment on tient à l'école? Comment toi, t'as tenu à ce conservatoire là? Est-ce que c'est pas le fait que avant même ces musiques-là, t'as baigné dans le contemporain, dans les musiques de création?
Il devait y avoir quelque chose comme ça. Et puis sinon, peut-être en ayant la chance d'être non loin de d'autres formes de plaisir,
ouais.
Dans d'autres expressions artistiques, par exemple.
Ah oui.
Ou même dans le plaisir d'écouter, tout simplement. En fait, je crois qu'il y a la notion de plaisir là, qui était nécessaire absolument pour tenir.
Ouais, ouais.
Et je vais même te dire que quand il y a un moment où j'ai vraiment été dans une saturation, je me suis dit, tiens, mais en fait, j'ai besoin de plus de liberté, je vais aller vers le jazz. C'était déjà un peu, entre guillemets, trop tard, ouais. Dans le sens où vers 20, ou je sais plus, vers 20, une vingtaine d'années. Parce que déjà, dans mon état d'esprit, mon rapport à l'instrument, mon rapport à moi-même, mon rapport à la partition, etc., il y avait quelque chose qui avait été brisé de la spontanéité, Mais il y avait quand même le plaisir de jouer, il y avait quand même le plaisir il y avait quand même le plaisir, et puis il y avait quand même une histoire d'identité aussi, c'est-à-dire c'était peut-être le seul endroit où j'avais l'impression d'être un peu moi-même quand même.
Alors oublions ces mauvaises choses. Hein.
Oui, non, parce qu'attends, j'ai quand même eu du plaisir,
ouais.
À jouer des musiques classiques.
Quand même.
Ouais. Voilà, c'est pour ça, non, c'est important quand même.
Oui, oui.
C'est vrai que j'ai aimé jouer Bach, j'ai aimé jouer... Scarlatti, justement, tu en parlais tout à l'heure. Ouais, ouais, il y a vraiment des. Ouais, parce que c'est quelque chose de vivant là-dedans, de très énergique.
Ah, oui.
Après, j'ai des souvenirs avec du Beethoven, sonate de Beethoven, la Passionata. J'ai aimé Haydn aussi, les mouvements lents d'Haydn, très beau. Donc, j'ai quand même. Non, puis j'ai joué de la musique classique jusqu'à une certaine. Quand même, je te dis, je me suis formée vraiment longtemps. Parce que j'ai tenu, quoi, comme on dit. Et puis, comme on disait tout à l'heure. Et puis après, Beethoven, ouais, je disais. Et puis, la musique romantique, Schumann, la fantaisie de Schumann. Et puis, si je continue un peu dans l'ordre, il y a eu, un peu chronologique comme ça. Début du 20e, génial, Bartok, Prokofiev.
Ah oui. Ah oui.
Tu vois, là, ça commençait à devenir Debussy. J'ai beaucoup, beaucoup joué Debussy,
oui,
les images.
Ouais.
Et puis voilà. Puis là, on arrive à un moment où... je manque d'espace, quoi, j'étouffe. J'ai besoin de quelque chose de plus, donc c'est là que je commence la musique contemporaine, du coup.
Mais est-ce que tu as donné des concerts à l'époque de ces musiques là classiques?
Oui.
Ouais, un peu.
Oui, un peu.
Ouais.
Entre mes 20 et mes 25,
ouais,
on va dire.
Ouais.
Alors, pendant mes études aussi.
Allons-y dans le contemporain. Alors quels ont été tes premiers concerts dans ces musiques-là?
En fait, moi, j'ai eu la chance... j'étais élève au 13e arrondissement. Après avoir été en Bretagne, je suis montée dans la région parisienne pour faire mes études de piano. Et puis, j'étais avec Karine Zarifian, qui est une pianiste. C'était une très bonne professeure. Et elle avait eu comme prof Carlos Roca Alsina, qui était un compositeur argentin et pianiste prodige, un peu de la génération d'Argerich, de Barenboim, tout ça. Il avait eu la même prof que quand il était là-bas en Argentine. Et donc il est un pianiste incroyable et compositeur. Mmh. Et en fait, il donnait des cours dans un tout petit studio à Montmartre. Et là, j'ai entamé des études avec lui dans ce petit studio tous les 15 jours pendant 3 ans.
Ouais.
Et là, il m'a fait reprendre tout le répertoire. Enfin, il y a eu un truc très... Et c'était extraordinaire. Et là, j'ai commencé la musique contemporaine par ses pièces à lui. Et puis, si j'avais un compositeur comme ça, paf, c'est Stockhausen, quoi.
Ah ouais, carrément. Ouais.
Ça a été génial. C'était extraordinaire. Vraiment, c'était vraiment dans la... On était toujours dans la lignée de la musique écrite, là, hein, ouais. On est d'accord. Donc, je jouais toujours, je faisais toujours mes exercices. Je flippais tous les dimanches, tous les 15 jours. Et c'était assez... c'était très intense, c'était fou. Et Carlos, d'ailleurs, est décédé cet été. Il y aura un concert hommage à la salle Corto le 9 janvier. Et du coup, il m'a transformé l'écoute, l'oreille, tout, le piano, le jeu. C'était incroyable. Et donc ça, c'était, voilà, on peut dire vraiment musique contempo. Et là, j'ai commencé l'ensemble Sans Initiative.
D'accord. Bon, attends, on va en reparler. Mais ouais. J'avais encore trois questions avant. Je voulais savoir si parallèlement à tes études musicales, est-ce que tu as suivi un cursus universitaire, je ne sais pas. En musicologie, philosophie,
Non, quand j'ai fini le bac, après le bac, je fais un bac littéraire, mais après le bac, j'ai tout de suite été sur études au conservatoire.
D'accord.
À l'époque à Saint-Maur.
Alors, autre chose, est-ce que tu joues d'autres instruments que le piano?
Eh ben non. En fait, j'ai joué du piano. Je te dis, je me suis accrochée. J'ai beaucoup joué du piano. Non, j'ai pas par contre...
Tu joues des claviers, par exemple, tu vois.
Eh oui, c'est venu après.
Ah, d'accord.
Ah non, là, du coup, je suis un peu dans la chronologie. Hein, donc là, à ce moment-là, non. Et puis, le piano, c'est vrai que, bon, après, il y a un répertoire de fou. Donc, finalement, je jouais aussi chez moi d'autres musiques et tout. Mais on va dire que je suis restée avec cet instrument-là. Et c'est après, petit à petit, pour faire le lien... là, si je continue un peu sur le chronologique... Petit à petit, où moi j'étais quand même vraiment intéressée par le corps et la danse aussi, par les autres arts en fait, aussi par la peinture. Tout ce qui était. Et du coup, j'ai petit à petit, en jouant la musique contemporaine, j'ai eu envie d'ajouter du performatif, c'est-à-dire des gestes. Donc là, on va vers justement ce répertoire de musique contemporaine, quand même, enfin voilà, et performative, on va dire.
Ah bah, allons-y, parlons-en. Alors, quand et par qui a été créé l'ensemble Sound Initiative?
Alors, Sound Initiative, c'est un ensemble qui a commencé en 2011. Et à l'époque, il y avait un peu plus de musiciens. Je pense qu'il y avait 12 musiciens. Moi, j'étais pas là. Je suis arrivée en 2013.
D'accord.
Et c'était en fait... c'était des grands élèves de conservatoire de la région parisienne qui se sont retrouvés à un moment donné, surtout autour du conservatoire de Boulogne, et qui, donc il y avait, je pourrais te les citer tous, Paolo Vignaroli, qui est flûtiste, qui est très engagé dans Demos maintenant, Joshua Hyde, qui est toujours là, il y avait Fabienne Séveillac, je ne voudrais pas en oublier, parce qu'il y avait aussi des gens qui étaient Winnie Wang, qui est toujours là aussi, il y avait quelques personnes qui sont parties ensuite.
Ah,
enfin, voilà, c'était un groupe d'étudiants, on va dire, qui avaient envie de jouer de la musique contemporaine, qui voulaient se retrouver pour faire...
Alors, quelles étaient les idées? Vous n'êtes pas retrouvés comme ça par hasard. Quelles étaient les idées que vous aviez, enfin, qu'ils avaient et que tu as eues en les rejoignant avec cet ensemble? Moi, il me semble avoir repéré le rapport avec le public, dont on en parlera dans tes duos. L'espace également, ou d'autres choses. C'était quoi l'idée théorique, on va dire?
Je crois que petit à petit, c'est dessiné l'identité, en fait. Hein. Ça s'est venu progressivement, évidemment. Puis ça continue à bouger, évidemment. Mais disons que c'était un groupe de copains aussi, je pense. Au début, on était heureux de jouer cette musique. On avait envie de la partager. Je pense qu'on ne savait pas encore à l'époque que ce qui allait nous rejoindre quand on s'est rencontrés, c'était l'envie de partage de cette musique au plus grand nombre, je pense. Et puis, des envies de créateurs et créatrices. C'est-à-dire qu'en fait, on ne sait pas, à bout d'un moment, on ne s'est plus vraiment attaché à des compositeurs ou des compositrices, parce que nous, on venait tous de la musique écrite aussi. Hein.
Ouais, ouais.
Donc, en fait, on a fini par avoir surtout envie de mettre notre grain de sel sur tout ce qui était la pensée derrière les concerts, la curation, moi j'appelle ça maintenant, parce qu'il a bien fallu trouver un mot,
ouais.
Parce qu'à un moment donné, il faut trouver des mots, sinon ça ne marche
ouais.
pas. Et c'était donc ce mot curation qui vient de l'art visuel et tout ça. L'idée, c'était de réfléchir à pourquoi on faisait un concert, à qui, dans quel espace. Qu'est-ce qu'on allait faire pour que le concert fonctionne, c'est-à-dire pour qu'il y ait une rencontre, pour que ça se puisse se matcher, entre guillemets, quoi,
ouais.
entre le public et nous. Et du coup, là, il n'y avait plus forcément des questions uniquement esthétiques de quelle musique on va jouer, qu'on veut défendre, etc. Mais plutôt ce qu'on veut défendre, c'est que ce soit convivial, qu'il y ait du plaisir de jouer et puis du partage et que les gens qui viennent, et ben voilà, on reparte ensemble, tous ensemble avec quelque chose de ça, quoi.
Ah oui, ah bah c'est super. Franchement, c'est tu parles de la question que je voulais te poser. En fait, je voulais te demander quelle est la matière musicale que vous proposez. Est-ce que ce sont des œuvres du répertoire contemporain, vos créations, des créations de compositeurs pour vous, et en fait, ce que je veux, des improvisations, pourquoi pas. Et ce que je veux dire, c'est que j'ai l'impression que c'est comme tu viens de faire, c'est pas ce qui est mis le plus en avant. Tu vois, la matière
oui,
musicale.
Oui, parce que en fait, il y a aussi cette idée que souvent, ce que je dis, c'est que en fait, il y a pas mal d'ensembles qui ont un peu, tu vois, un peu semblables aux nôtres comme ça,
ouais.
Qui sont dirigés par des compositeurs ou des compositrices. D'ailleurs, souvent des compositeurs. Mais bon, c'est un autre problème.
Si.
Mais du coup, ce que je veux dire, c'est que nous, on est aussi créateurs de musique parfois. On n'est plus forcément dans des délimitations à ce point-là, vraiment, tu vois, des cases. On fait un peu ce qu'on a envie de faire au moment, quand on sent qu'il faut le faire. Donc déjà, ça, c'est important. Et puis, c'est surtout de valoriser la part créative de l'endroit du passage. C'est-à-dire pas l'œuvre en soi, pas ouais. l'œuvre figée, l'œuvre absolue,
ouais.
mais que l'œuvre, en fait, que la partie créatrice, elle se situe dans la rencontre entre cette musique qui est jouée et les publics qui sont avec nous.
Ouais.
Et du coup, ça demande une sacrée créativité aussi de trouver le compte, de chercher le contexte de représentation, de développer une virtuosité presque, une intelligence quoi, autour de ce moment qui est le concert, qui est en fait l'œuvre, entre guillemets.
Ouais,
tu vois ce que je veux dire?
Ouais, bah, tout à fait. Ouais.
Voilà.
Ouais, alors, moi j'encourage les auditrices et les auditeurs à aller sur le site de Sound Initiative pour bien comprendre ce dont il est question. Et peut-être pour éclairer, je pense que parmi les idées que vous avez, il y a le fait d'utiliser tout l'espace d'un lieu, et ça va peut-être parler, si je dis, faire différentes propositions, comme si c'était un mini-festival. Ça, moi, j'ai vu ça, moi je trouvais ça intéressant et je trouvais ça assez parlant en fait. C'est pas seulement un concert frontal dans une salle, vous allez utiliser, alors bon, il y a l'ascenseur, je ne sais pas quoi, bon, après.
Ouais.
Est-ce que tu peux développer un petit peu ça?
Oui, en fait, ça vient de l'idée de l'expérientiel, de l'expérience en fait. Que si on joue aussi de la musique expérimentale, en fait, nous, l'expérimental, il va être aussi à l'endroit de la forme.
Ouais.
La forme même, c'est-à-dire que c'est le spectateur, en fait, il va vivre une expérience. En fait, nous, moi je disais souvent, mais c'est vrai, on est habitué à ce que les gens nous disent, moi j'aime pas ce que tu fais, en fait.
Ouais,
mais
ouais.
Ça, c'est pas un problème, parce
ouais.
que, voilà, on est habitué, on a fini par s'habituer. Parce qu'en fait, aussi, peut-être que finalement, si je dis on, mais moi, par exemple, si je fais ça, c'est pour. Pour titiller, quoi, en fin de compte.
Mmh.
C'est pas forcément pour qu'on aime, en fait. Je suis pas là forcément pour ça. Et donc, du coup, l'idée de l'expérience du spectateur qui va vivre différentes choses dans cette déambulation. Et bah, des fois, il va aimer, des fois, il va pas aimer, il va détester, des fois, il va être waouh, attends, c'est quoi ce truc? Je savais même pas que ça pouvait exister un truc pareil.
Ouais.
Et en fait, c'est ça le jeu, c'est ça le but.
Ouais.
Donc, en fait, il fallait pour ça qu'il y ait comme. Différentes entrées possibles d'une musique extrêmement diversifiée, parce
ouais.
qu'en fait, cet ensemble-là peut faire ça, en fait. C'est ça aussi. En fait, moi, en étant directrice artistique de cet ensemble-là, du coup, depuis 2013, je pense que j'ai développé cette envie et cette chose qui me plaît énormément, qui est la curation, comme on disait tout à l'heure, et puis on
ouais.
va en parler après sur les projets solo, mais sur le fait de concevoir pourquoi, comment concevoir ces formes de concerts et tout. Et il y avait aussi derrière ça m'est venu comme ça, c'est-à-dire que je pouvais pas, cet ensemble il est fait de personnalités tellement fortes est tellement différente, parce qu'aussi c'est une diversité culturelle, c'est plein de choses différentes, que du coup, moi, la façon dont j'ai fini par la diriger, c'était plutôt d'être à l'écoute de ça, d'être sensible à ça et de savoir qu'est-ce qu'on allait faire ensemble, mais plutôt, parce que c'est pas non plus un collectif. Tu vois, c'est vraiment, on est vraiment sur quelque chose de... Ouais. Donc, il y a des choix à faire de direction et tout. Mais c'était plutôt une direction qui n'allait pas être intellectuelle du style « je veux faire ça » ou en tout cas pas préconçue. Mais c'était plutôt une direction qui allait, petit à petit, à force des projets, sentir les différentes personnalités de ce qui faisait cette identité qui était déjà là. Et entre autres, il y avait vraiment cette histoire de musique multiple, en fait. On peut faire de la musique écrite, voilà. Il peut y avoir de l'installation sonore, il peut y avoir de la musique performative, il peut y avoir que des gestes, il peut y avoir toutes sortes de choses scénographiées, un peu théâtrales, un peu dansées. Ça permettait justement de permettre aux spectateurs d'aller de divaguer là-dedans et ensuite de se dire « Waouh, j'ai pas tout aimé, mais j'ai découvert plein de trucs. » Parce qu'en fait, finalement, c'est peut-être que ça. Pour moi, c'est qu'on fasse découvrir des choses. Ouais.
Alors, pour être clair, c'est un concert, alors, je ne sais pas si on peut dire ça d'ailleurs, une prestation, de son d'initiative, ça va être forcément plusieurs lieux, sur un temps plus allongé, dans plusieurs endroits, ça ne va jamais être un concert frontal.
Il y a des parties de cette déambulation ou des parties du concert. Ouais. Ça peut être aussi un concert d'une heure et demie. Mais dans ce moment-là, il peut y avoir un moment frontal.
Ouais, ouais.
Et puis, il peut y avoir toutes sortes de choses.
Ouais, ouais.
On appelle ça concert parce que c'est pareil, il faut bien nommer.
Ouais.
Mais c'est ce qu'on fait aujourd'hui, quoi.
Ouais, ouais. Alors, j'ai vu que vous intégriez même dans le dispositif le bar pour rencontrer les
oui, gens. Tu vois, c'est toujours dans la même idée. C'est-à-dire, on est toujours sur l'idée qu'il faut travailler sur le contexte.
Ah, ben oui.
C'est obligé. Mais parce qu'en fait, aussi, tout est contextuel, en fait. Ça n'existe pas, non contextuel. En fait, tout est contextuel, tout le temps. Tout est relié. Et on est tous. C'est un peu wouh. Mais je veux dire, on est tous reliés les uns les autres. On est tous. En même temps, c'est. Désolé, mais c'est la réalité, quoi. Et du coup, si on ne prend pas soin de ça, si on pense que ça existe en soi, pour moi, il y a quelque chose de raté.
Ah ouais, je suis bien d'accord. Quelle est l'actualité de Sound Initiative? Est-ce que vous avez vous produire dans.
Oui, alors on est en train de travailler sur... tout n'est pas encore clairement énonçable, parce que tout n'est pas encore complètement acté. Mais en tout cas, on est en train de travailler sur un nouveau projet ici. Donc en fait, le projet ici que tu mentionnes, en fait, ça s'appelle ici, en fait. On l'a appelé le concert ou la déambulation ici. Et puis, parce que c'est vraiment lié au lieu.
Parce que
l'idée, c'était, comme tu disais tout à l'heure, l'idée, c'est d'arriver aussi à avoir une discussion préliminaire et une consultation, un travail en commun avec le lieu qui accueille.
Ouais.
Parce que lui aussi, ce lieu-là, ou ces personnes-là, elles connaissent les publics, elles ont des problématiques peut-être.
Oui,
il y a des choses magnifiques. Hein, c'est quelque chose que j'adore faire. Par exemple, il y a eu à un moment donné à l'EPAIA une femme qui nous a contactés, donc on a eu un rendez-vous toutes les deux. Et elle me dit, écoute, nous, on est à côté de l'Ukraine. Moi, je veux un concert Joie de vivre.
Oui.
Et en fait, je vous ai appelé parce que je pense que ça, c'est possible avec vous. tu vois. Et en fait... moi, ça m'est resté dans la tête, tu vois. Donc, c'est ça, la curation. C'est-à-dire que tout d'un coup... Et puis après, il y avait cet espace de dingue où on pouvait faire du 360 degrés en projection vidéo. Paf. Et du coup, il y a cet artiste avec qui on a travaillé. Donc, en fait, à chaque fois... Et du coup, là, il y avait aussi un moment de convivialité à la fin. On a fait un DJ set à la fin. Ça a fini en dance floor. Et il y avait quelque chose à boire. Parce que c'était ça, le partage. Et cette musique, on a joué à l'intérieur de la musique très contemporaine. Il y a eu une pièce de Julien Malocena aussi, des choses. Voilà. Et tout ça mêlé, tout d'un coup, ça devient le moment. Et puis, et la magie, et les rencontres. Voilà. Donc oui, tu me posais la question, mais en tout cas, la convivialité est essentielle cette façon.
On rappellera toutes les dates à la fin. En tout cas, c'est super. Moi, encore une fois, Sound Initiative sur Internet. Là, on va écouter Seven Truths.
Seven Thoughts.
Alors c'est
Thoughts,
quoi
Her Kind.
C'est quoi? Présente-nous la pièce.
Oui, alors c'est une pièce de Sarah Nentzoff qui est basée à Berlin. Et en fait, cette pièce-là, c'est un solo pour clavier. J'étais venue vers elle. Je devais jouer pour. D'ailleurs, les deux enregistrements qu'on a écoutés, celui d'avant et celui-ci, viennent d'un concert à la BBC 3 à Londres que j'ai fait en 2018, du coup. Et j'étais venue vers elle en lui disant, voilà, j'aimerais bien, je joue cette grande pièce pour piano, voilà, qu'on a écouté tout à l'heure, là. Et puis, j'aurais vraiment aimé avoir une pièce pour clavier, clavier midi, où je puisse être debout. C'est toujours un peu mes envies de faire aussi du geste et de faire... Ouais. Et du coup, elle a fait cette pièce qui est assez féministe, dans le sens où, dedans, vous allez entendre, il y a un poème, donc Hurricane de Anne Sexton. Et donc ça, c'est assez féministe. Et assez dramatique. Et donc, c'est du piano midi, donc c'est un clavier 3 octaves. Et elle a construit les sons. Elle a construit les sons qui sont programmés.
Très bien.
Yeah. I have gone out.
I have gone out.
A possessed witch haunting the black hair, braver at night. Dreaming evil, I have done my hitch over the plain harvest. Light
by light.
Light by
light. Lonely thing,
twelve-fingered.
Out of mind.
Out of mind.
A woman like that,
a woman like that
not a woman quite.
Is not a woman quite.
I have been her kind.
I have been her kind.
I have found a warm cave in the woods, filled with skillets, carving, shells, closets, built with innumerable goods. Fixed the supper for the worms and the elves, whining, rearranging the disaligned. A woman like that, is misunderstood. I have been her kind. I have ridden in your kite,
driver.
Waved my nude arms as village is going by. Learning the last bright roots. Survivor, where your flame will light my thigh. And my ribs crack where your wheels wind. A woman like that
is not ashamed to die.
I have been her kind.
I have been her kind.
Radio Libertaire, la radio de la Fédération Anarchiste, vous êtes à l'écoute de l'émission Les Oreilles Libres, consacrée aujourd'hui à Gwen Rouget, pianiste et puis performeuse, on va dire. Et alors, on a parlé de Sound Initiative, et tu as créé une compagnie, Entre. Est-ce que tu peux nous dire le but de la création de cette compagnie, et ce que tu veux développer comme projet dans cette compagnie?
Mais en fait, quand ça, c'est mon travail solo, parce que du coup là, c'est une compagnie pour tout ce qui est solo. Ouais. En fait, j'ai commencé à développer parallèlement au fait d'être co-directrice artistique de l'ensemble Sound Initiative. J'ai commencé à concevoir des projets solo. Et puis, le premier projet, ça a été Caravane. On en parlera tout à l'heure, mais ouais. Du coup, ça, c'est 2017. Ouais. Et la compagnie, c'est assez récent. À un moment donné, il a fallu que ce soit identifié, que ce soit mis dans un projet qui s'appelle Entre, E-N-T-R-E. Donc ça c'est récent, mes projets solo, ça fait plus longtemps, ça fait donc depuis 2017. En fait, je pense que j'avais besoin de travailler, de continuer à approfondir cette question de la relation et cette question du contexte de représentation avec une espèce d'énorme liberté quoi. Donc du coup, il fallait que ce soit des projets solo. En tout cas, c'est comme ça que moi je l'ai senti. Il fallait que pour avoir une forme de, pour être dans une radicalité à cet endroit-là, pouvoir aller chercher vraiment. Comme je te disais tout à l'heure, en fait, son initiative, c'est un ensemble que je dirige vraiment avec l'idée d'être sensible, d'être en forme de radar sur les personnalités qui la constituent. Et du coup, c'était vraiment la nécessité d'être à un endroit en solo, seul dans mon studio, et réfléchir et développer ce travail-là, qui est un travail, disons, presque d'esthétique de relationnel, de la rencontre. Enfin, on est sur vraiment une forme où, de façon vraiment vraiment radicale, la relation entre le spectateur, la spectatrice et l'artiste est au centre vraiment de la conception. Et puis ce qui s'est passé, c'est que progressivement, donc tout à l'heure on était un peu sur la chronologie, j'ai commencé cette musique contemporaine, après je te parlais de musique performative, et puis je suis passée par exemple, on parlait d'institution tout à l'heure. En fait, il y a un moment, j'ai eu l'opportunité, pour plein de raisons différentes, d'aller au Royal College of Music à Londres, ouais, faire un master en piano contemporain. Donc là, on est vraiment dans l'institutionnel de l'institutionnel, ouais, pour essayer de prendre tout ce qui est ce que peut aider l'institutionnel et après le transformer et en récupérer de la liberté d'action je pense que petit à petit j'ai eu envie d'être, enfin j'étais attirée par des figures un peu libres, tu vois, ou des un peu subversive quand même aussi. Et du coup, pour parler de Entre, je pense que si je parle vraiment de ce qui constitue cette recherche-là, ce qui est la base de cette recherche-là, c'est la découverte, je pense, de Duchamp, très clairement. Cage, en fait, à la base. Cage, clairement. Et puis ensuite, ça a été vers Duchamp. Et puis Joseph Beuys derrière. Enfin, tu vois, il y a vraiment une filiation, vraiment, qui se dessine assez, assez clairement. Abramovitch après par Beuys, les happenings et tout. Et qui me font arriver à cette forme que je développe là, dont on va parler par rapport à Entre, qui est où le contexte, en fait, finalement, la musique que je joue est importante, mais reste un média, ouais, pour ce qui va se passer, qui va être la rencontre.
Parlons de digestion, si tu veux bien. On parlera des rencontres en solo duo, moi je dis quand même.
Tout à fait.
Après, mais digestion, j'ai vu ça sur, tu sais, les retransmissions sur Internet.
De la muse en circuit
ouais, hein, des camarades de la muse en circuit. Tout simplement, de quoi s'agit-il, digestion ?
Digestion, c'était l'envie de faire une pièce pour guitare. Donc en fait, dans mon envie, comme j'en parlais, de bouger, de faire des gestes en jouant, etc. Avec le piano, c'était un petit peu compliqué. Donc je me suis mise à faire du clavier. Donc tu vois, je me suis mise à faire du clavier avec le plaisir des sons électro, mais aussi parce que ça a amené cet aspect performatif, très clairement. Cet instrument guitare génial,
Alors tu peux nous expliquer.
C'est un clavier MIDI en forme de guitare, Ouais. Sauf que c'est un clavier.
Voilà, ouais.
Et c'est vraiment pour l'émancipation des pianistes qui en avaient marre d'être assis dans les années 80 dans la musique pop et qui avaient envie de pouvoir aussi bouger comme le guitariste. Faire son show, quoi.
Ouais.
Et du coup, là, il y a des guitares qui existent en Bluetooth, donc il n'y a pas de câble. Et là, tu peux complètement bouger, etc.
Ouais. C'est ce que tu as, toi, effectivement.
C'est ce que j'ai fait, du coup.
Je me demandais si tu jouais... C'est pas vraiment un clavier, c'est un sampler, plutôt.
Ouais, c'est un sampler.
C'est un sampler, d'accord.
C'est un clavier MIDI, c'est un sampler. Donc après, je travaille sur Reaper, je travaille sur Mainstage.
Mmh.
J'ai suivi les cours de Philippe Mion,
qui
est quelqu'un de fabuleux,
ouais.
Et qui a un atelier extraordinaire à Vitry-sur-Seine. Et puis voilà. Donc j'ai fait cette pièce clairement féministe, qui a une forme de récit, qui a un récit, qui est cette femme, ça va être une traversée en fait, qui dure une quarantaine de minutes.
Ouais.
Qui est une traversée comme ça depuis cette musique traditionnelle moi en l'occurrence je viens de Bretagne, donc une gavotte bretonne, quelque chose comme ça, avec les noms des femmes de ma famille, etc. Et puis petit à petit une traversée qui va amener à l'émancipation partagée et toujours dans cette envie de lien avec les spectateurs et spectatrices. C'est je déambule à travers eux,
ouais.
Je leur prends des objets, il y a échange d'objets, ça me transforme. Voilà, avec peut-être que ce soit poreux tout ça et que peut-être j'embarque tout le monde, on s'embarque ensemble dans ce plaisir de pouvoir finalement danser à la fin, s'émanciper de tout ce qui nous... La complexité de la tradition, en fait, hein, toujours pareil.
Ouais.
On en revient au début.
Ouais. Il y a clairement un rapport au corps, à la danse. Au début, c'est carrément de la danse, en fait.
Ouais.
Ouais. Et puis même.
La danse des pieds, quoi. La danse des pieds, le rapport au sol. Moi, j'ai récemment fait une formation. Je me forme toujours depuis un pas mal d'années maintenant sur ces choses-là, avec un mec extraordinaire qui s'appelle Julian Hamilton, qui est un danseur. La composition instantanée.
Je l'ai vu la semaine dernière, oui.
Tu l'as vu la semaine dernière ?
À Densité.
Ah, tu l'as vu à Densité.
Voilà.
Il faisait une formation avec un organisme de formation danseur qui s'appelle Présomption de Présence, qui est génial, qui est dirigé par Marie Desoubeaux, et qui ouvre, en fait, ces déformations d'un très haut niveau comme ça de danse à des gens qui sont performeurs, autres.
Ah ouais.
Qui sont comédiens, qui sont musiciens. Et c'est extraordinaire de faire ça. Parce qu'en fait, de faire ça, ça change les formes artistiques. Parce qu'en fait, du coup, tu as accès à des choses qui vont faire changer tes produits, qui vont aussi faire changer ton être humain,
ouais.
Et aussi tes productions artistiques, qui vont être complètement influencées par d'autres formes d'expression. Et ce mec extraordinaire.
Ah bah, il a l'air, hein. Je sais plus quelle connerie j'avais dû lui raconter dans le minibus de gentiment conduit par Jean-Philippe Gross, mais ouais, il a l'air vraiment bien, ce mec-là.
Pourquoi j'avais envie de travailler avec lui, c'est parce que pour lui, de base, tout est relation.
Ah ouais.
Rien n'existe.
Ah, ça m'étonne pas, ouais, d'accord.
Tout est relationnel.
Ah ouais.
Donc en fait, tout, mais c'est-à-dire, c'était en particulier un workshop sur le rapport aux objets. Tout est relationnel. Donc l'objet est là au même titre que toi, il a l'attraction, il a le support de la Terre au même titre que toi. Donc il te fait être plus démocratique quelque part.
Ah.
Un être humain plus démocratique,
ouais.
Avec les êtres vivants et les êtres et donc les objets aussi, l'architecture, etc. Dans un rapport d'énergie finalement. Et qu'on se donne du support, hein, supported body, on se donne du support à travers tout ce qui nous entoure et mutuellement et dans un va-et-vient permanent. Enfin, c'est génial.
Ah, super, super.
C'est
et
génial.
Alors, mais pourquoi le titre de cette performance, on va dire, digestion ?
Digestion, parce qu'il va falloir, le digérer, tout ça.
Ah, ouais.
Voilà. Et en fait, il y a aussi la façon dont j'ai travaillé les sons du clavier, c'est des sons de piano préparés que j'ai enregistrés, donc des sons que j'ai faits sur mon piano à queue, là. Préparé des sons de bruit d'organique, du corps, de l'intérieur du corps.
Ça semblait bien, ouais.
Et puis après des choses aussi de paysages sonores, mais il y a quelque chose de très organique. Et donc en fait, vraiment purement de digérer toute cette tradition, tout cet héritage en fait, parce que c'est pas le propos là, mais il y a quand même vraiment, sur le sort du féminisme, il y a vraiment une histoire de d'héritage et de digestion.
Ah oui, bah si, moi je trouve que c'est le propos, hein, si tu veux développer.
Ah oui, non, ce que je veux dire, oui d'accord, ce que je veux dire c'est qu'il faut digérer tout ça pour en faire autre chose, quoi.
Oui.
Et il y a des traces, il y a aussi peu de témoignages par moment, on a peu l'histoire des femmes aussi, bah, clairement. Hein, Donc, qu'est-ce qu'on fait cet héritage-là ? Parce qu'on l'a en nous, en fait. On l'a aussi. Mais bon, ça peut aller aussi au-delà du féminisme, dans le sens où on a tous ça en nous, dans une mémoire organique, une mémoire dans nos cellules. Et ça vient de très, très, très loin. Et du coup, il faut effectivement, pour en faire autre chose, il faut se le prendre, quoi. Il faut se le manger tout ça et accepter de le digérer, oser le ressentir, le voilà.
Alors on va écouter un extrait de Digestion, mais je vois que tu as amené quelques ouvrages.
Ah oui.
Que tu voulais pas nous...
Eh ben,
parce que tu as cité des noms là, Duchamp, Beuys, Abramovitch. Est-ce que tu voulais pas nous citer quelques passages, des choses qui t'ont inspiré ? Et puis après on parlera de tes solos, duos.
Alors oui, alors du coup, il y a ce bouquin extraordinaire de Joseph Beuys qui s'appelle « Par la présente, je n'appartiens plus à l'art ». Et donc là je parle de moi, de ma recherche artistique, et puis on développera après l'extrait. L'idée, c'est déjà chez Joseph Beuys, il y a vraiment l'idée du processus, que le processus est primordial, bien plus intéressant que le résultat. Et ça fait vraiment partie des choses qui m'ont énormément influencé pour travailler sur d'ailleurs, en fait, là. Bon, on va en parler tout à l'heure, mais dans Temps de chantier, finalement, et puis dans les extraits sonores que je te propose par rapport à ces projets-là, finalement, c'est jamais la même chose, ouais. Et qu'il fallait figer quelque chose et pour pouvoir diffuser quelque chose. Mais en gros, c'est pas vraiment représentatif de ce qui se passe à l'intérieur. Pas complètement,
bah
plutôt.
Oui,
parce qu'effectivement, à chaque fois, ça va être différent. Mais on va en parler tout à l'heure. Et Joseph Beuys, je vais lire un passage qui me plaît énormément. Mmh. Quand je te disais tout à l'heure que j'avais été attirée de plus en plus par des personnalités qui ont un rapport à la liberté, et je pense que ce mot fondamentalement pour moi c'est vraiment essentiel, et peut-être qu'effectivement c'est par sous ces lectures et entre autres de Joseph Beuys qu'il y a cette notion d'apprentissage de la liberté, que l'art serait là pour ça, en fait, de la liberté. Alors donc un extrait de ce bouquin, attends, juste te dire. Discours sur mon pays, 1985. De la liberté considérée comme levier fondamental de toute chose. Parce que plus rien, issu d'une autre direction, ne sera possible. Parce que toutes les autres positions ont été historiquement usées, aussi bien le levier des droits que le levier de l'économie. Le seul dont on n'est pas encore abusé est celui qui provient de l'art, d'un lointain passé historique. Mais il revient comme futur, comme un futur total, celui de l'homme devenu conscient. C'est cela l'art et rien d'autre. Je dis l'art parce que l'art peut montrer tel ou tel visage. Il peut se révéler sous son ancien visage, celui qui n'est plus efficace, celui des grands signaux. Mais il peut aussi montrer sa face humaine, c'est-à-dire montrer son sens évolutif. C'est ici que se trouve le seuil entre, d'une part, le concept traditionnel de l'art, la fin de la modernité, la fin de toutes les traditions, et d'autre part, le concept anthropologique de l'art, le concept élargi de l'art, l'art social comme préalable à toute capacité. Car voici la grande falsification que l'on ne cesse de pratiquer, cette falsification que l'on m'oppose consciemment et méchamment quand on me soupçonne de dire « tout homme est un bon peintre », quand j'affirme « tout homme est un artiste ». Ce n'est justement pas ce que je veux dire. La question, c'est la capacité de chacun sur son lieu de travail. Ce qui compte, c'est la capacité d'une infirmière ou d'un agriculteur à devenir une puissance créative et à la reconnaître comme une partie d'un devoir artistique à accomplir. Voilà la question.
On va en reparler. On écoute Digestion ?
Ça marche.
Thank you.
Vous êtes à l'écoute de Radio Libertaire, la radio de la Fédération Anarchiste, 89.4 en région parisienne. Radio-libertaire.net partout ailleurs dans le monde. C'est l'émission Les Oreilles Libres aujourd'hui avec Gwen Rouget. Alors Gwen, on vient d'écouter Digestion. Comment t'as fait ça? C'était un mix? C'était un...
Là tout de suite là? Ouais, c'est des extraits en fait, parce que ça dure 40 minutes. Donc là c'est des extraits, extraits de la pièce. Il y a un moment par exemple, il y a un langage des dents, là je l'ai mis dans l'extrait. Un clavier en fait programmé avec des dents, et puis là je parle au public avec un langage inventé, etc. Ouais. Donc c'est différents moments de la pièce, parce que en fait voilà, la pièce est très performative, il se passe beaucoup de choses aussi dans l'espace qu'au moment du jeu, quoi. Donc, ouais, c'était pas possible évidemment transcrire ça.
Alors, tu sais, tout à l'heure, je t'ai demandé si tu avais fait un cursus universitaire en philosophie, je ne sais quoi. C'est parce que sur ton site, il y a beaucoup de références artistiques, philosophiques. Tu viens de parler de Beuys, il y a également Rancière, Duchamp, tu l'as cité. Il y a même une bibliographie, ce qui n'est pas fréquent, sur le site d'une musicienne. Et moi, j'aimerais savoir quelle pensée, quelle recherche sous-tend ton approche, voir est-ce qu'il y a un courant. J'ai lu, je ne sais pas si sur ton site ou ailleurs, le terme d'art relationnel. Est-ce que tu peux parler de tout ça, développer?
Oui. En fait, ça rejoint un peu effectivement cet extrait de Beuys dont je viens de... Bah, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pas fait de... À un moment donné, on m'a dit, tiens, tu devrais faire un doctorat, etc., une recherche et tout. Puis j'ai pas fait parce que je crois que j'ai vraiment envie d'aller à la rencontre des gens, de jouer, de ça. Donc je me voyais pas vraiment... Mais malgré tout, il y a une vraie... Quand je te disais tout à l'heure que j'étais attirée par des personnalités à la fois libres et subversives et tout, ça m'a amenée vers des découvertes qui m'ont portée, en fait, finalement. Et puis du coup... Je dirais que là, aujourd'hui, par rapport à ce que je développe dans mon projet artistique, où il y a beaucoup plus des lectures qui me portent philosophiques que finalement des musiques.
Oui.
Et ouais, c'est pour ça, c'est comme ça. C'est un peu, c'est comme ça. Et puis du coup pour poser un peu peut-être effectivement cette recherche... j'ai mis une biblio parce que ça donne un peu le fond de la recherche et d'où ça vient, toute cette filiation, quoi, finalement. Et donc je parlais de Duchamp tout à l'heure, parce qu'en fait à la base je crois que ce qui se passe aussi, c'est que finalement, et ça c'est vrai que c'est un truc que je dis souvent, je suis plus, en tant que musicienne, je suis plus intéressée par l'écoute que par le son. Et du coup quand j'ai trouvé cette phrase, je me suis dit ça dit que effectivement, et c'est vrai qu'en fait, bien sûr, le piano, c'est mon instrument. Il se passe plein de choses. Tu peux exprimer plein de choses. J'ai pu exprimer plein de choses à travers en jouant, etc. Mais il y avait vraiment cette sensation quand même aussi que le piano est un média pour une communication autre, une rencontre autre, à un autre endroit avec les autres qui m'entourent aussi, quoi. Et donc, du coup, Après, la découverte Parkage, finalement, d'aller vers Duchamp, je crois que s'il y a une logique, c'est qu'il y a l'inframasse de Duchamp qui m'a énormément plu. Parce que l'inframasse, c'est vraiment étendre sa perception au maximum pour aller chercher vraiment des choses très infimes et tout, qui va vraiment amener vers le projet Caravane et qui aussi est une invitation à tout être, à aller plus loin dans sa perception, à être plus poète, plus sensible, plus poreux. Et ça rejoint un peu j'ai lu tout à l'heure de Beuys, c'est que bien falloir qu'on trouve... Enfin, on est bien obligé de trouver des solutions, on ne peut pas rester sans rien faire, là, avec tout ce qui se passe. Donc du coup, si moi, à mon endroit, j'essaie de trouver ce qui peut, en tout cas, me paraître... qui peut peut-être nous aider un peu dans cette société, c'est n'est-ce pas? C'est quand même peut-être d'étendre sa perception, et peut-être d'être plus de s'ouvrir à cette poésie qui est n'importe où. Donc en fait, Cage évidemment, et du coup Duchamp avec cette inframince, c'est complètement l'affiliation de cette pensée-là. Et puis c'est le regardeur qui fait le tableau, dans le sens... Ouais. C'est ça, c'est qu'en fait, et c'est complètement là, le fond de ce projet entre, c'est-à-dire revaloriser la place de celui qui perçoit que l'œuvre d'art n'est pas absolue. Une musique dans un tiroir, ce n'est pas l'art. L'art, c'est ce qui se passe au moment où c'est joué. Et au moment où c'est joué, c'est une personne qui joue et c'est une personne qui écoute.
On va y venir. Alors, tu me tends une petite perche là, que j'aime bien saisir dans l'émission, parce qu'on est sur Radio Libertaire. Et moi, je ne l'oublie jamais, ça. Jamais. Et je veux savoir si ces différentes pratiques que tu as avec Sun Initiative ou dans tes solo duo dont on va parler juste après, tu as parlé d'une idée de démocratisation de la musique, dite savante ou expérimentale, je ne sais quoi. Y a-t-il une visée politique, clairement ?
En fait, le politique s'est fait. S'il y en a, il s'est fait dans la forme même.
Ouais.
Voilà, dans la forme même, parce qu'on n'a pas le choix de pas être politique.
Alors je vais reformuler. Y a-t-il une critique de la société dans laquelle nous survivons ?
Il y a des tentatives de solutions pour survivre justement. Oui. Non, je pense qu'il n'y a pas le choix parce que là, et encore plus et de plus en plus, on sent bien que ça se resserre. Il faut trouver du sens à tout ça. Et c'est vrai que moi, en faisant des performances pour une seule personne, dans un espèce de rapport c'était ma solution à moi avec ce que je suis de retravailler à la relation, quoi, à la relation. À l'autre et à ce qui nous entoure, etc. Au plus petit de voilà entre deux êtres quoi. C'est ce que j'ai trouvé, mais pour donner du sens quoi. Parce que pendant ce temps-là, il y a eu un étouffement. Moi, j'étais à Darmstadt, j'étais dans les musiciens, dans les groupes de musiciens contemporains. Puis j'en pouvais plus parce que d'être dans son studio à chercher le son inouï, non. Enfin, pour moi. Bien sûr, pour moi, c'est pas possible. Ouais. Donc, et aussi ce rapport à cette, on a un rôle quoi. On a un rôle quoi. Et ça me fait penser aux nouveaux commanditaires. Je sais pas si tu vois. C'est depuis les années 90, je crois maintenant, que ça a été très très subventionné par la Fondation de France et je crois que c'est le ministère de la Culture, non ? Mais c'est que les personnes, que toute personne peut être commanditaire d'une œuvre d'art.
Tiens donc. Ouais.
Et c'est de l'argent après. Donc il y a tout un protocole, c'est extrêmement... ça met des années avant que ça se fasse, etc. Mais c'est remettre l'art dans la vie, quoi. Mmh. Qu'en fait, ça sert à quelque chose, quoi. Mmh. Et que ça nous sert à vivre, ça nous sert à mourir, ça nous sert au rituel. Que l'art est là, par exemple, il y a cette très belle, magnifique... il y a une commande qui est faite par le crématorium de Garches, pour une salle magnifique bleue pour les familles qui viennent reconnaître les corps, etc. Que tu peux visiter d'ailleurs. C'est génial. Et c'est parce que, oui, en fait, le bleu, l'art, par exemple, ça, à ce moment-là, il aide les êtres humains au passage. Ouais, ouais. Ça permet de, normalement, donc, quelque part, tu sais, il y a cette phrase souvent, ça m'agresse très fort parce que c'est depuis que je suis ado, j'ai cette phrase dans la tête. Si votre quotidien vous paraît pauvre, ne l'accusez pas, accusez-vous vous-même de ne pas être assez poète pour en appeler à vous les richesses. Mmh. Et ça, c'est Rilke. Et moi, je crois que j'essaie d'être à cet endroit de la poésie pour embarquer quoi, avec moi, pour dire en fait, on l'a tous en nous, c'est juste à côté, c'est juste là. Et ça, si chacun est à cet endroit-là, chacune, on sera plus vibrant peut-être au monde, et du coup, le monde ira peut-être mieux.
On écoute un court extrait pour nous mettre dans l'ambiance de Caravane, et puis on parle de tes solos.
Thank you. que la valeur réside dans les choses mêmes. C'est pensable par une civilisation qui hérite du réalisme platonicien. Qu'elle réside dans le sujet universel. C'est pensable par des héritiers du sujet transcendantal kantien. Qu'elle réside dans le sujet singulier. C'est pensable, au prix de quelques contorsions, par les héritiers du romantisme allemand, avec sa théorie du génie individuel ensuite démocratisée. Mais que la valeur ne soit ni subjective, ni objective, qu'elle ne soit ni singulière, ni universelle, qu'elle soit dans la relation, commune par la part d'irrésolus partagés et partageable par des individuations collectives, c'est beaucoup plus difficile à concevoir. Car nous ne sommes pas une civilisation experte en pensée de la relation, c'est peu de le dire. Et pourtant, nous n'avons rien d'autre de sérieux. L'esthétique occidentale s'est attachée à localiser la valeur dans l'objet même ou dans le sujet esthétique même. Il faut que la valeur soit intrinsèque à l'un ou l'autre, sinon elle n'est pas absolue. Et si elle n'est pas absolue, ça ne peut être une valeur. Et le discours sur l'œuvre apparaît comme arbitraire. L'esthétique de la rencontre participe d'une révolution ontologique tranquille de ce point de vue, en tant qu'elle impose la relation comme entité ontologique à part entière, et pas seulement comme mise en présence seconde et secondaire de deux entités ontologiques séparées déjà constituées, l'œuvre et l'individu. La relation a valeur d'être. Alors ça, c'est un extrait que j'avais envie de vous lire, de L'esthétique de la rencontre, qui est un livre, L'énigme de l'art contemporain, qui est un livre qui est sorti en 2018 de Baptiste Morisot et Estelle Zong-Mingual. Baptiste Morisot, philosophe, et puis Estelle, elle est historienne de l'art. Et c'est un peu, la lecture de ce livre, c'est un peu un livre, tu lis, et tu dis, mais c'est dingue, c'est écrit exactement ce que je fais ou ce que j'essaie de faire depuis des années, quoi. J'avoue que... Et donc, il y a eu l'esthétique relationnelle de Bourriaud, et puis là, l'esthétique de la rencontre. C'est encore d'une autre, il me semble, pour moi en tout cas, subtilité sur l'irrésolu dans chaque être, comment ça peut être en résonance, comment ça peut se rencontrer et tout. Et puis surtout sur la relation, quoi. Et donc, ce que je viens de lire, cette capacité, est-ce qu'on on peut avoir... Et c'est vrai que Baptiste Morisot, il écrit beaucoup sur la relation au vivant, des bouquins extra, vraiment génial. Il est vraiment génial. Et du coup, je ressens quand même vraiment une posture vraiment très contemporaine pour le coup, de notre rapport au monde aussi, quoi. Et Dieu sait si aussi c'est très urgent en fait, clairement. Ah oui. C'est aussi urgent quand Joseph Beuys en parle dans les années 70, mais c'est-à-dire ce rapport au monde qui est donc plus relationnel. Plus horizontal, plus relationnel, plus dans un rapport de résonance. Et donc, cette résonance, pour moi, évidemment, c'est pour ça que j'ai travaillé là-dessus sur tant de chantiers, mais ça dit ça, en fait. Ça dit la résonance entre les êtres. Et que c'est la relation qui est la valeur, quoi, qui est la valeur.
Alors, nous avons le cadre théorique. Maintenant, il va falloir la pratique, parce que peut-être il faut tout simplement expliquer le dispositif, que ce soit
concrètement.
Dans caravane ou concrètement.
C'est ça. Donc, en fait, ce qu'on vient d'entendre, c'est un extrait de caravane. Alors, caravane, ça se vit tellement. C'est dans une caravane des années 70, la marque Rapido, qui est extraordinaire, qui est une caravane qui se monte un peu.
Qui se déplie, oui.
Qui se replie, et qui a une petite table en formica, qui sent vraiment les années 70, et on est dans un petit living room en plein espace public, puisque l'idée c'est d'avoir le piano et deux chaises à côté du piano, et dans cette petite caravane, et d'avoir un rendez-vous pour un spectateur ou une spectatrice qui vient donc à l'heure du rendez-vous, qui frappe à cette caravane qui est dans l'espace public, et qui vient pour une demi-heure d'un moment à deux, avec moi. À trois, avec le piano. Ouais. Et il y a un invité surprise, ou une invitée surprise, mais ça, je n'en parlerai pas, parce que ça fait vraiment partie, justement, il y a vraiment quelque chose de l'expérience unique. Il y a le petit moment un peu genre, ah là là, comme on vit tous quand on a une performance pour un spectateur, c'est un peu, il me semble, d'après ce que j'ai compris des témoignages, ok, j'y vais, mais il y a une toute petite appréhension. Ah, en tout cas, on se dit un tout petit peu, tiens, qu'est-ce qui va... Bah, je vais être tout seul, qu'est-ce qui va se passer? Et en fait, c'est très volontaire que je fais ça, parce que je crois que, volontairement, c'est parce qu'il y a quelque chose du déplacement, du petit pas de côté, d'un truc qu'on n'a jamais fait, qui va faire qu'il va y avoir une suspension du jugement, qu'il va y avoir un état on n'a pas d'idée préconçue puisqu'on ne sait pas ce que c'est. Et ça, c'est génial parce que ça met un petit moment de suspension ou un peu sur le qui-vive, quoi. Malgré tout, le cerveau reptilien, il est un peu en mode « Waouh, qu'est-ce qui va m'arriver ?» Et ça, c'est génial pour amener du nouveau, de la curiosité, de, je sais pas moi, même des choses qui te surprennent de toi, qui te surprend aussi de toi-même. Enfin, je veux dire, tu vas réagir comme tu vas pouvoir, on sait pas trop. Et ça nous amène à être créatifs, je crois.
Ouais.
Donc c'est toujours un peu la même idée, c'est un peu attiser comme ça, de lancer des trucs pour cette créativité qui est chacun de nous et qu'il faut juste titiller un peu peut-être par moment.
Ah ouais, oui. Et, mais alors tu l'as dit à plusieurs reprises, tu as précisé que ces performances étaient dans l'espace public, hors des salles de spectacle, des lieux institutionnels. Mmh. Et, quelle signification ça a pour toi? C'est important visiblement.
Bah oui, non mais. Parce qu'en fait, encore une fois, c'est un peu dans la même idée de ce que je viens de dire. C'est-à-dire qu'en fait, on a de telles, mais tout le monde, en fait, on a des habitudes, on a des façons de faire, on est tellement dans... Et en fait, est-ce que l'art n'est pas là pour un petit peu... justement, c'est tout ce côté un peu subversif aussi, mais est-ce qu'on n'est pas là justement pour bousculer un peu les habitudes? Mais autant de tout le monde. Donc en fait, moi aussi, je me mets dans une situation qui n'est pas habituelle aussi. Oui. On est tous dans le même panier, entre guillemets. On va tous aller à quelque chose où ça perturbe un peu nos habitudes. Parce que ça perturbe, parce que perturber un peu les habitudes, ça réinterroge, ça réinvente. Ça, c'est la créativité, finalement. Oui. Donc on en a besoin, vraiment, je pense. Et du coup, de s'éloigner de... Il y avait vraiment premièrement, il y a ça, il y a d'autres choses, mais il y a ça, c'est sûr, c'est fondamental. S'éloigner de je prends ma place, je prends mon rien, je rentre dans la salle, je m'assois. Ce rapport-là, pour moi, à ce moment-là, c'était nécessaire pour justement ouvrir d'autres portes. Mmh. Ou en tout, voilà, sans qu'on s'en rende compte, subtilement, paf, on rentre dans un truc autre et du coup, on est autre. Ou en tout cas, on peut réinterroger notre façon d'être et tout, d'écouter finalement, parce que là, on est surtout dans l'écoute, hein, l'idée de travail de l'écoute. Après, deuxième chose qui vient après, mais qui est très importante aussi, c'est que il y a beaucoup de gens très curieux.
Eh oui.
Et oui.
Entièrement d'accord avec ça.
Voilà. Ouais. Et que donc, il faut arrêter de dire qu'il n'y a pas de public.
Ouais, oui.
Il faut arrêter de mettre les places à 5 euros parce que ça ne sert à rien si on continue à être dans le même fonctionnement. Parce que ce qui compte, c'est d'accueillir, de prendre soin, de valoriser cette personne à l'endroit de la perception. Peu importe d'où elle vient, voilà. On a tous une écoute, on a tous une oreille, on a tous une culture de l'oreille. Elle est différente, c'est tout. Donc en fait, s'écouter les uns les autres, les unes les autres, s'écouter, écouter l'environnement, etc. Tout ça, est-ce que c'est pas être plus vibrant au monde et du coup être plus créatif et du coup, comme disait Beuys, peut-être amener une autre forme de société. Bon, mais si tu restes dans un cadre qui est destiné à certaines personnes seulement, eh ben ça sera destiné à ces gens-là.
Oui.
Mais voilà. Donc en fait, il y avait aussi l'idée que aller dans certains... y aller, c'est autre chose, ça dit autre chose que de rester dans des lieux dédiés, oui, ouais. C'est sûr.
Et alors, ce dont tu voulais t'éloigner, ce dont tu viens de parler, là, est-ce que... Parce que j'hésitais, en rédigeant mes questions, à employer le mot spectacle.
Ouais.
Parce que, est-ce que c'est pas justement du spectacle que tu veux t'éloigner? Est-ce que ça reste un spectacle, Tente de Chantier ou Caravane?
Après, c'est toujours pareil, c'est le problème des définitions.
Oui, c'est
quoi.
Peut-être un peu spécieux.
Parce qu'en fait, le problème, c'est qu'on est, dans l'invention. Donc, dans l'invention, fondamentalement, il n'y a pas le mot pour le dire. Sinon, ce n'est pas inventé.
Yeah.
Alors après, il faut quand même, et ça, on nous le demande beaucoup aussi, de rassurer aussi, quelque part, de nommer, de mettre dans des mots qui veulent dire des choses, et que ça veut dire quoi, et ce que tu fais, etc. Et en même temps, on est coincé, quoi. Parce qu'on est coincé, parce que, oui, mais si on invente, si on reprogramme, le mot exact, il est compliqué à trouver. Donc, spectacle, moi, je... pourquoi pas réutiliser les mêmes, mais en disant que les choses changent aussi et se transforment en permanence. Mmh. Cette mobilité des choses est en permanence requestionnée. Il faut bien l'accepter, quoi. Donc effectivement, pourquoi pas? Pourquoi pas spectacle en sachant que et puis souvent aussi, ce qui est agréable, c'est que souvent on pense que la façon de faire, par exemple cette façon frontale là du spectacle, ouais. Bon, elle a toujours été comme ça, mais en fait non, elle est assez récente aussi. Donc il y a toujours ce truc un peu de se dire non, mais ça a toujours été, mais non, en fait c'est
comme le capitalisme. Hein,
exactement. C'est vrai. Donc ça donne une espèce de poids au truc. Ouais, Et puis ouais. Après t'es là, en fait non. Donc en fait. Ouais. Voilà, tout se refait, en fait. Est-ce que c'est vraiment original ou est-ce que c'est juste des choses qu'on oublie que ça existait avant? Enfin, je sais pas. Mmh. Pour moi, voilà. Donc,
Alors, moi, je tiens à contribuer à rassurer, puisque j'ai assisté lors du festival Ouf. Switch avant à tente de ce chantier.
Ouais.
Donc, c'était... Alors, moi, j'avais... Alors, effectivement, ce dont tu parles un peu, l'appréhension, mais c'est pas vraiment une appréhension.
Non, toi, t'as pas eu.
Non,
c'est ça plutôt, dépend des gens,
plutôt hein. De la curiosité. Mais ah bah oui. À la limite, je serais... Et là, ça me dérange pas, parce qu'on est, deux dans la tente.
Oui.
Ce qui me dérangerait plus, c'est d'avoir assisté au spectacle dont on parlait précédemment, là.
Oui.
Digestion, tu vois, et d'être pris à partie. Ça, j'aimerais pas.
Oui, parce qu'il y a du monde
parce
aussi.
Parce que c'est un spectacle, parce que c'est un public, c'est...
Alors oui, mais alors, du coup, tu... Alors...
Ça me gêne plus. Les spectacles participatifs, j'aime pas du tout, quoi.
Mais en fait.
Parce que. Ouais, parce que je suis. Là, ces spectacles-là, il y a un spectacle. Oui. J'y vais en tant que spectateur.
Ouais.
Donc je viens pour rien foutre et vivre là.
Ouais.
Là, quand je viens dans l'attente de chantier, bon, je sais très bien.
C'est dit depuis le début.
Ouais, c'est dit depuis le début. On me surprend pas. Et puis, si ça me fait chier, j'y vais pas. Quoi.
Alors, la posture d'indigestion, elle est un peu particulière parce que c'est pas front. Les sièges sont un peu mis dans différentes. Ouais. Mais c'est marqué, on le voit dans la vidéo. Mais, et en plus, d'ailleurs, du coup, ça va y